Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Tati Daniel aux manettes et au micro. Avec une semaine d'avance, vous en avez de la chance. Je comptais bien vous faire faire ou refaire un voyage que j'aime bien. Mais pour ça, je ne dispose aujourd'hui que du vieil enregistrement fait du temps où je sévissais à la textuelle, il y a un paquet d'années. Alors qu'Amy me pardonne cette intrusion imprévue dans son programme. On se rajeunit comme on peut, hein. Oui. Et maintenant, j'en ai sérieusement besoin. Alors oui, c'est du brut de décoffrage, hein. Ça manque nettement de montage. C'est ce qu'on appelle une œuvre de jeunesse. D'habitude, je vous dis de nous envoyer vos commentaires. Mais cette fois-ci, je vous serai très reconnaissante de vous abstenir charitablement. Il y a quelques lunes que Contre-Histoire a remplacé Chroniqueur et que ce micro ne me sert plus qu'à vous faire de la peine avec cette histoire passée ou récente qui ne fait pas grand honneur à la République, mais qu'il faut absolument connaître. Donc, les artistes sont très rares maintenant à mon micro. Mais ne désespérons pas, tout est possible à Canal Sud. Faut juste s'en donner le temps. Bon, alors on y va. Vous êtes prêts à tout? Bonjour tout le monde. Mais où est donc Chroniqueur? Et puis maintenant, eh bien, attachez vos ceintures. Je vais vous raconter ma fête des mères et vous allez voir que ça vaut le coup de s'attacher. J'ai reçu, avec un petit peu de retard, d'habitude ça arrive juste le jour J, mais bon, j'ai attendu, j'ai rien perdu pour attendre. Et j'ai reçu une bande dessinée fantabuleuse. Une bande dessinée qui vaut à elle toute seule un vrai billet d'avion. La bande dessinée s'appelle Balade en Guyane. Alors, bien sûr, je vous parle assez souvent de la Guyane, où je vais souvent, puisque j'y ai ma progéniture. Eh bien, la progéniture, elle a fait un très bon choix cette année, hein, je vous dis pas. Toute une bande dessinée qui raconte la Guyane avec des planches pas possibles, des planches trop drôles. Et je vais vous raconter ça page par page. Il n'y en a pas une qu'il faut rater. Je crois bien que si j'arrive pas à terminer, eh bien, je vous resservirai la Guyane la semaine prochaine. Parce que c'est trop drôle et c'est trop bien fait. Voilà. Alors, les premières pages, sur la page de gauche, on voit des lieux abandonnés, c'est-à-dire une vieille télé, en face un fauteuil qui a vécu et une bouteille à côté qui a été vidée. Et le propriétaire, de toute évidence, s'en est allé. Et où il est allé le propriétaire, à la page 2, on a une petite idée. On voit un Gaston qui ressemble, dans son maintien, il ressemble un petit peu au Gaston bien connu en métropole, comme on dit. Mais il est un peu plus dodu. Et puis, il a une tête un peu plus hirsute si possible. avec un bon gros pif et des yeux craquants. Et le Gaston, il nous ouvre son armoire dans laquelle il va enlever, c'est le cas de dire, son sac à dos, où il y a déjà un sac de couchage qui est déjà tout roulé en haut, un gros chapeau et un grand coutelas. Et on voit à côté de l'armoire une map monde qui lui a permis de rêver. Et voilà, ça y est, sur la troisième et quatrième page, on voit un Airbus. Alors, la Guyane est un département d'outre-mer, d'hommes, situé à 7000 km de la France. La France, vous savez, ce tout petit pays des États-Unis d'Europe. Les touristes aiment bien visiter la France, mais ils vont nettement moins en Guyane. C'est pourtant son plus grand département, un sixième de la métropole. La Guyane d'Amazonie, terre des derniers Indiens, du bagne et de la fusée Ariane, formidable vivier de vies animales, végétales et humaines. Mais pourquoi la Guyane a-t-elle si mauvaise presse? Alors sur ces deux planches, à gauche vous avez des maisons, derrière au fond il y a une tour Eiffel. Entre les deux planches, océan Atlantique, parce que sur l'autre rive, eh bien, il y a la forêt, il y a les cocotiers, etc., etc. Et au-dessus, notre Airbus. Alors voilà, l'Airbus a atterri. Qu'est-ce qu'on reproche à la Guyane finalement? Sa forêt omniprésente, anthropophage? Ah ben, faut faire attention, hein. Ces bestioles rampantes, piquantes et dévorantes. Eh bien oui, il faut faire attention, hein, il n'y a pas d'histoire. Alors ça, la bulle, elle est sur le tronc d'un cocotier où s'enroule un serpent qui n'a pas l'air commode. Et en bas du cocotier, il y a quelque chose qui ressemble un peu à un jaguar qui a l'air pas content du tout. Alors, les bestioles rampantes, piquantes et dévorantes, ben oui. Simplement, faut être prévenu. Faut pas aller se promener en forêt en tongs, par exemple. Hein, parce que des fois, vous frôlez ou vous pouvez marcher sur, par exemple, un serpent corail. Ça fait 20 cm et ça vous tue en une seconde. Alors, faut y aller avec des chaussures montantes. Voilà, c'est tout, faut le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à la Guyane? On lui reproche ses moustiques. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, avec les répulsifs, on vit très bien, franchement. Par contre, l'auteur ne nous parle pas de la papillonite. Et ça, c'est beaucoup moins drôle que les moustiques. Ça arrive de temps en temps. La météo vous annonce qu'il va y avoir la papillonite. Bien, ce sont des quantités de petits papillons qui passent partout. Et qui vous laissent en souvenir les petites aiguilles qu'ils ont sur les ailes. Ça, c'est atroce. C'est pas tous les matins, mais quand il y a la papillonite, il faut vous enfermer chez vous, vous scotcher tous les tours des fenêtres et tout, puis vous attendez que ça passe. Bon, ça, le temps que les papillons s'envolent, ça prend, ça peut prendre une journée, hein, une journée ou une nuit. Ça, c'est ce que j'ai trouvé de moins drôle en Guyane. Mais bon, je l'ai vu qu'une fois, hein. J'y suis allée une dizaine de fois, je l'ai vu qu'une fois. Bon. Alors, on reproche aussi son manque de structure touristique. Ah ben, faut savoir, hein. C'est Sofitel ou Carbet, hein. Voilà. Sofitel, c'est en Amérique du Nord, et le Carbet, eh ben, c'est en Amérique du Sud, voilà, c'est tout. Personnellement, j'ai des souvenirs de Carbet pas tristes du tout, et je vous raconterai ça. Quand on sera arrivé à la bonne page, c'est nettement plus rigolo que les Sofitel. Les billets d'avion encore trop chers. Alors là, oui. Il y a 5 ou 6 ans, il y avait un certain candidat à la présidence de la République qui était allé chercher des voix en Guyane et qui avait promis de diminuer d'au moins 40% le prix du billet. Oui, résultat des courses, maintenant le billet, il est à 1000 euros. En prenant 6 mois à l'avance, peut-être qu'on arrivera à réduire un peu. Mais le dernier que ma fille, elle a pris, c'était 1000 euros. Alors ça fait quand même un peu beaucoup, hein? Heureusement qu'on s'est débarrassé du candidat en question, hein? Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à la Guyane aussi? Son bagne et son passé lourd de souffrance. Ah ben là, je dois dire que les visites du bagne, c'est difficile à oublier. Alors, si on allait sur place pour se rendre compte. Et voilà, on a une belle carte, un bel Airbus dessiné sur une grosse flèche qui part de Paris, bien sûr, et qui arrive en Guyane. Et on vous prévient, 5 heures de décalage horaire et 7 heures d'avion d'Europe à l'Amazonie. Et quand vous retournez, ça fait une heure de plus. On nous parle de 1500 espèces d'arbres différentes. Alors, pour les arbres, peut-être. Mais les spécialistes n'ont pas encore listé toutes les espèces de végétation qu'il y a en Guyane. Rien qu'en Guyane. C'est vraiment une richesse fantabuleuse. Alors, on continue. Et voilà, notre Airbus, il descend, il descend. Alors, quand on a passé l'Atlantique, quand on voit qu'on arrive vers la Terre, la première chose que l'on voit pendant longtemps, pendant plusieurs minutes, eh ben, c'est ce qu'on appelle la forêt de brocolis. Alors, la forêt de brocolis, eh ben, c'est la forêt tout court. Mais on dirait effectivement un champ de brocolis, voilà, oui, un champ de brocolis. C'est exactement cette couleur, ça en a même le relief apparent. Et par en dessous, la forêt de brocolis, eh ben, il fait presque nuit. Voilà. Alors, entre océan et forêt, une enclave de moins de 160 000 habitants pour 90 000 km², une des plus faibles densités de la Terre. 4 saisons, novembre, février, petite pluie. En mars, petite saison sèche. D'avril à juillet, saison des pluies. De juillet à novembre, saison sèche avec canicule en octobre. Et on arrive à Cayenne. Alors effectivement, le Gaston, il est du même avis que moi. Il fait pas si chaud que ça finalement en Guyane. Ben, il fait 30 à l'ombre, mais chez nous aussi souvent il fait 30. Mais chez nous c'est insupportable, il y a de quoi tomber par terre, parce que nous on habite en zone sèche. Tandis que là-bas, avec 90% d'humidité, eh ben, la chaleur on la supporte très très bien. Et puis pour les dames, mais même pour les messieurs, je vous signale qu'en arrivant en Guyane, au bout de quelques heures, vous avez l'impression de vous être fait faire un lifting. L'humidité tend la peau, c'est extraordinaire. Ça hydrate, hein, voilà. Par contre, il ne faut pas rêver, quand vous redescendez à Blagnac, eh ben, votre lifting il est parti. Mais vous paraissez 10 ans de moins pendant tout votre séjour en Guyane. Alors, la place des palmistes, pas de touristes, pas de chasse touriste, le bonheur, c'est pas mal la France vue sous cet angle. La Guyane est un arc-en-ciel d'ethnie. On y trouve de toutes les couleurs. Ça, c'est un des charmes fantastiques de la Guyane. Alors, les créoles sont majoritaires, 40% de la population. Et vivent surtout dans les villes, dans les secteurs administratifs et politiques qu'ils occupent en majorité. Il y a les créoles guyanais, métis des anciens esclaves libres. Et puis il y a les créoles antillais, qui viennent des îles voisines, de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. Alors, Gaston nous dit, attention, ne pas les confondre si on veut devenir copain avec et le rester. J'avoue que je ne me suis pas heurtée à ce genre de problème. Il faut dire que moi, j'ai un sacré passeport. C'est ma fille, mon passeport. Alors, ici, tout est cher, car tout est importé, sauf le rhum. Et puis, des petites plantations, là, on ne voit pas très bien, mais à mon avis, elles sont un peu suspectes. Peu d'hôtels, donc chers. C'est pas mon avis. Peu d'hôtels, oui, ça c'est sûr. Mais ils sont pas plus chers qu'en métropole. Mais on peut trouver des métros qui partent respirer le carbone de leur terre natale et vous confient leur coin de paradis. Oui, ça se fait beaucoup. Hein, quand les gens qui travaillent là-bas prennent des vacances en France, en métropole, pardon. Souvent, ils prêtent leur maison. Oui, ça se fait beaucoup. Alors, vous arrivez, vous vous installez chez les copains. Et Gaston nous dit, j'ai l'impression de changer de nationalité. J'étais français et me voilà métro. Ah ben oui, les métros, ça veut dire blanc. Alors, les créoles sont les plus nombreux. Il y a aussi des Surinamiens et des Brésiliens. Ce sont les voisins immédiats, hein, de l'autre côté de l'Oyapock. Il y a des Haïtiens, qui sont les plus démunis, et puis les métros, qui sont les plus munis. Alors, le métro, il est dessiné avec sa baguette de pain sous le bras, ce qui est une allusion poétique au cliché traditionnel, mais... Une des caractéristiques de la Guyane, c'est que le pain n'a rien à voir avec celui de la métropole. Et oui, c'est devenu une éponge. Le temps de le sortir du four et de le mettre en rayon, c'est devenu une éponge. Oui, ça c'est un problème de l'humidité. Alors, on mange du pain américain ou du pain congelé. Le temps qu'il décongèle, il est mangeable. Mais c'est vrai. La Guyane nous fait passer le goût du pain. Les Chinois, ce sont les plus commerçants. Les Hmong, les plus fins cultivateurs. Ah oui, les Hmong, ce sont les Hmong qui nourrissent toute la Guyane. Et ils ont retrouvé, en arrivant, ils étaient boat people, et quand ils sont arrivés en Guyane, ils ont retrouvé les mêmes conditions climatiques que dans leur Asie du Sud-Est. Alors, ils ont fait comme ils avaient l'habitude, et ils produisent des choses magnifiques, succulentes, et en plus, ils sont bons cuisiniers. Quand on va dans leur village, qui s'appelle Cacao, ben c'est un restaurant continu. Les Noirs marrons. Alors, ce sont les descendants d'esclaves qui se sont échappés, des plantations et qui ont fui l'esclavage et qui se sont réfugiés dans la forêt. On les appelle les nègres marrons. Et ce sont des gens formidables. Ils sont un peu spécialisés dans les travaux du bois. Ils font des sculptures absolument superbes. Tout à fait superbes. Et puis, il y a les Amérindiens. Évidemment, ce sont les plus anciens. Alors, la double page suivante nous parle du carnaval. Alors, si vous avez la possibilité d'aller en Guyane, eh bien, c'est au carnaval qu'il faut atterrir en Guyane. Alors, Gaston nous dit, à peine Noël achevé, tout le bon peuple de Guyane s'affaire pour la préparation de la plus grosse java de l'année. Eh bien, moi, je contredis Gaston, parce que le bon peuple de Guyane, s'il se mettait à préparer carnaval le 26 décembre, eh bien, ils n'auraient pas grand-chose à se mettre sur le dos pour carnaval. Toute la Guyane prépare carnaval, mais depuis l'été, depuis notre été, depuis le mois de juillet à peu près. Et tout le monde coud, tout le monde pique et coud, et taille dans des tissus fantastiques, des lamets, des voiles. C'est extraordinaire, extraordinaire. Tout le monde, dans tous les foyers, partout, il y a une machine à coudre. Ici, on ne sait plus ce que c'est une machine à coudre, Je vous garantis que là-bas, tout le monde sait s'en servir. Alors, on prépare les costumes, on astique les instruments, on bricole les chars. Alors, l'école s'arrête, mais il n'y a pas que l'école qui s'arrête. Parce que pendant le carnaval, si vous avez besoin d'un papier, il faut pratiquement prendre les armes pour vous procurer un passeport ou quelque chose de ce genre. Parce que si vous y allez le matin, les gens cuvent leur nuit de carnaval. À midi, ils mangent comme tout le monde. Et le soir, ils font la sieste pour être en forme, pour aller danser le soir. Eh oui, c'est humain. Alors, dès que tout le monde est prêt, c'est le carnaval. Le carnaval est la soupape de la cocotte minute guyanaise. Toutes les ethnies confondues se mélangent pour une vaste et longue fiesta. Là, on réalise que la Guyane est bien sud-américaine. Alors, la longueur de la fiesta, elle est inimaginable pour nous, ici. Parce que le carnaval commence le 2 janvier. À peine on a décuvé du 1er janvier. Ça commence donc le 2 janvier. Et ça se termine le mercredi des cendres. On brûle Vaval, on brûle carnaval le mercredi des cendres. Mais selon les caprices du calendrier de l'Église, le mercredi des cendres, des fois, c'est à la mi-avril. Et jusqu'à mi-avril, dans ce cas-là, et ben, on fait la fête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est à l'occasion de ce carnaval qu'on a les bals des Touloulous et des Toulélés. Alors les Touloulous, vous en avez, à Toulouse, on en a entendu parler. Hein, ce sont les femmes qui sont masquées, parées masquées, comme on dit, du haut en bas. Elles ont des perruques, elles ont des chaussettes, elles ont des gants, elles sont habillées long. On ne voit rien, on ne voit pas un centimètre carré de peau. Parce que si on voyait un centimètre carré de peau, on pourrait savoir si la personne est blanche ou noire ou bleue ou verte. Et c'est un signe d'identification. Les Touloulous, ce sont les femmes, hein, les Touloulous. Les Touloulous, donc déguisées, doivent être absolument anonymes. Et ça permet la bonne vieille plaisanterie. Les Touloulous, les femmes donc vont inviter, ce sont elles qui invitent les hommes à danser. Et quand par exemple une dame chez elle a préparé une somptueuse robe rouge, il y avait du tissu rouge partout, alors le monsieur, quand il va danser, il se dit « bon, il faut que je fasse gaffe aux danseuses en robe rouge ». Mais les autres, je peux draguer comme un fou. Alors le monsieur, il drague comme un fou. En particulier, la superbe créature avec une robe verte fantabuleuse. Et quand il rentre à la maison, qui c'est qui l'attend avec le rouleau à pâtisserie? Eh bien, c'est la danseuse avec la robe verte. Parce qu'il n'avait pas reconnu sa femme, voilà. Et ça arrive tout le temps. C'est arrivé à ma cousine. Et qu'est-ce qu'on a rigolé. Alors, il paraît qu'il y a un très important pic de fécondité après cette période. Vous êtes prévenus. Alors, une petite analyse des différents visiteurs de la Guyane. Alors, il y a ceux qui viennent bosser et qui se foutent parfois du pays. Il y a ceux qui viennent se la couler douce. Les métros de Guyane, environ 20% de la population, sont plutôt plus sympas que ceux de France, paraît-il. Solidarité de caste, se demande Gaston. Il y a les amoureux de la nature et de l'aventure. Alors le dessin est trop drôle. Vous voyez un aventurier qui s'en va d'un pas, je dirais d'un pas agressif. Il lève une patte qui veut tout écraser. Et dans sa main gauche, il a un coutelas qui ne doit pas faire bon fréquenter. Alors, beaucoup viennent ici pour vivre un rêve ou pour fuir un cauchemar. Alors là, je ne sais pas qui est rêve, qui est cauchemar. On voit une dame qui pleure. À côté d'elle, il y a une grosse valise. Et sur l'image suivante, on voit un monsieur qui est, disons, j'allais dire agressé. Pas tout à fait, il n'a pas l'air mécontent de cette agression. Une Brésilienne qui s'approche très 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 près de lui. Alors la Brésilienne dans son, je dirais dans son appareil de Brésilienne, hein, c'est-à-dire un balcon bien garni et un arrière-train pareil. Et on dit les Brésiliennes sont largement à la hauteur de leur réputation. Et l'image suivante, la Guyane, on aime ou on déteste, quand on aime c'est pour la vie. Et on voit quelqu'un qui a décidé de passer sa vie en Guyane. Il est dans un hamac, le hamac accroché comme dans les carbets, qui sont des espèces de granges sans murs dans la forêt, où on attache les hamacs après les poteaux du carbet. Alors là, on voit deux pattes humaines qui dépassent du hamac. Et voilà ce que ce métro apprécie de la vie guyanaise. Alors, ça c'est très très drôle et c'est tout à fait vrai. À chacun son utopie, il y a même un fêlé qui a construit son château, Seigneur des Anneaux, en pleine forêt avant de repartir. Eh bien ça c'est vrai. Et quand on arrive là-dessus, c'est sur une petite route, c'est sur la route de cacao. Et je vous assure que quand on arrive devant ce château, on se demande si on est victime d'hallucinations. C'est un truc à traverser la route, à foncer dans un arbre ou dans le château. On se demande vraiment si on a une hallucination. C'est extraordinaire. C'est une espèce de château. Ce qu'il a d'amusant, c'est qu'il est tout en bois. Ben oui, avec les matériaux qu'il y avait autour, le constructeur, il ne s'est pas trop cassé la tête. Mais c'est un château avec des tours, avec des créneaux et avec des meurtrières. Fallait quand même être un peu allumé pour faire une chose pareille au milieu de la forêt amazonienne. Mais bon, c'est un gag. Si vous allez à Cacao, vous verrez, je vous mens pas. Alors, se déplacer en Guyane. Eh bien, se déplacer en Guyane, il n'y a pas de bus, ou très très peu, il n'y a pas du tout de train. Les moyens de locomotion sont donc très limités. Il y a ce qu'on appelle les taxicos, collectifs. Eh bien, personnellement, je n'ai jamais réussi à les reconnaître. Alors, vous voyez, c'est pas évident. Eh bien, on voit les taxicos sur l'unique axe routier qui va du nord au sud de la Guyane. Mais il y a quelques services de transport aérien. C'est Air Guyane qui joint de façon assez risquée d'ailleurs les différents points, les différents villages de Guyane qui ne sont pas accessibles autrement. Un endroit très connu pour cette raison-là et pour d'autres, c'est Sahul. Sahul, c'est au sud de la Guyane. Et il est impossible, paraît-il, d'y aller autrement que par avion. Moi, il me semblait qu'on pouvait y aller en rando, mais c'est quand même un peu loin, ouais, c'est sûr. Mais je crois avoir rencontré des gens qui sont allés en rando. Ouais, il devait avoir une sacrée boussole. Alors, il y a la pirogue. La pirogue, les pirogues. Les pirogues, ça, c'est très sympa. Faut savoir que même avec les meilleurs piroguiers, et Dieu sait qu'ils sont fantastiques ces gens-là, ils connaissent, on dirait qu'ils connaissent chaque caillou des fleuves, c'est vraiment extraordinaire, mais même avec eux, À la saison sèche en particulier, de temps en temps, il faut descendre de la pirogue. Et puis, il faut se mettre les pieds dans l'eau. Les pieds, les genoux, les cuisses. Parce que la pirogue, il n'y a pas assez d'eau, elle ne peut pas passer. Alors, tout le monde descend, on soulève la pirogue et hop, on la met dans un trou d'eau et tout le monde remonte. Il faut juste regarder qu'il n'y ait pas trop de caïmans alentour, c'est tout. Maintenant, en Guyane, il y a la pluie. Et Gaston nous dit, dans une superbe bulle, au-dessus d'un dessin éloquent, dire qu'il pleut en Guyane est un pléonasme. Ça, c'est sûr. On ne peut pas imaginer, à moins de connaître bien l'Afrique, on ne peut pas imaginer ce que c'est que la pluie en Guyane. Moi, les premières fois, les premières nuits en particulier, il m'est arrivé de rêver que la maison se détachait et partait sur le fleuve et allait se retrouver dans l'océan. J'ai rêvé de ça, je l'ai rêvé plusieurs fois, parce que je trouvais absolument inimaginable qu'il puisse pleuvoir autant. C'est vrai, c'est... Je sais pas quoi vous dire, on peut pas imaginer ce que c'est, il faut être dessous. Et la première fois que j'ai été dessous la pluie guyanaise, j'ai cru que ça allait m'assommer. C'est pas que ça fasse mal, mais c'est d'une violence prodigieuse, quoi. Et... Non, ça ne m'a pas assommée. Puis après, je me suis amusée dans le jardin à rester sous la pluie. Parce que c'est une douche chaude. C'est ça qui est drôle. Et on nous dit que la Guyane est une grosse éponge verte. Ben oui, tout à fait, exactement. Alors ensuite, on a une double page, boulot, chômage et RMI. J'aime pas trop cette page-là. Ah oui, je dirais méchamment que ça a été fait par un métro. Oui, enfin. Oui, il nous dit que l'Eldorado a changé de nom, qui s'appelle aujourd'hui CAF et RMI. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de mendiants en Guyane. Nulle part. Ça, c'est inadmissible, Guyane. Alors, il y a une très forte immigration clandestine, 20% de la population. Les Surinamiens et les Brésiliens qui passent le Maroni et l'Oyapock, qui sont les fleuves frontières, et qui viennent en France. Parce que la France, socialement, c'est vrai, surtout pour se faire soigner, c'est plus intéressant que le Brésil, et surtout que le Suriname. Le Suriname est un pays très, très, très malheureux. Les Hmongs. Alors, les Hmongs sont arrivés du Laos à partir de 1977. Ils sont venus remplacer les Surinamiens qui ne pouvaient plus s'occuper de la terre guyanaise pour cause de foutage sur la gueule chez eux. Nous dit Gaston, moi je ne me permettrai pas. Alors, les Hmongs sont des cultivateurs d'exception, mais moins bons commerçants que les Chinois, ce qui ne les empêche pas d'être plein de sous malgré leur apparence dépouillée. Mais si vous voyez un peu comme ils travaillent, c'est pas dommage qu'ils soient pleins de sous. Et il y a une belle page sur cacao. Alors cacao, on voit une construction, une maison sur pilotis, avec le pick-up sous son garage, et des fils électriques, et une église catholique avec un petit clocher. Alors, petite histoire de la Guyane. Alors, en 1499, l'Espagnol Vicente Yanez Pinzon, découvre la Guyane. Les Amérindiens y vivent déjà depuis 1500 ans. En 1604, début de la colonisation, pas évident, et on voit un Espagnol en costume d'époque, avec casque métallique, etc., qui a l'air de faire des déclarations enflammées à un Amérindien qui n'a pas l'air rassuré du tout, mais alors pas du tout. Et il a bien raison, le pauvre. 1633, l'Espagne et le Portugal se partagent l'essentiel de l'Amérique du Sud, laissant des miettes aux autres pays d'Europe. La France hérite ainsi de la Guyane. 1643, Poncé de Brétigny fonde Cayenne. 1652, la colonisation est difficile sur cette terre rude. Des esclaves sont acheminés d'Afrique comme main-d'œuvre. Certains s'évadent. Ce sont les premiers nègres marrons. 1763, expédition de Kourou. Pour remettre en valeur la Guyane, on envoie 16 000 volontaires la repeupler. Mais ils mourront quasiment tous de maladies dégueux, nous dit Gaston. Alors, les maladies dégueux, c'était essentiellement la malaria. Il y a aussi une maladie qui mérite le titre de dégueux, c'est le torboyau qu'on attrape quand on arrive. Mais ça, c'est seulement une histoire d'habitude. Au bout de 2 jours, ça passe. Les ethnies se multiplient, les galères aussi. 1789, Révolution française, réorganisation de la Guyane, Cayenne devient municipalité. En 1790. Ça, c'est... L'image est assez drôle. On voit une superbe Marianne qui arrive avec son drapeau bleu-blanc-rouge, son bonnet phrygien et sa cocarde. Et c'est une Marianne à la mode brésilienne, avec le balcon bien garni et l'arrière-train assorti. Et on voit un Amérindien qui arrive avec son arc et ses flèches et plein de petits cœurs tout autour. Et un aigle marron qui a l'air très très étonné. 1794, première abolition de l'esclavage. La colonie est ruinée. Faute de main-d'œuvre, la Guyane végète. Sa réputation est légèrement pourrie. 1809, les Portugais occupent la Guyane et la rendent plus prospère avant de la restituer aux Français en 1817. Napoléon, à la demande de sa fifine, rétablit l'esclavage. En 1848, abolition définitive de l'esclavage. 1852, la Guyane coûte plus qu'elle ne rapporte. C'est l'ère du bagne. 60 000 forçats viendront y traîner leurs chaînes. La réputation de la Guyane est au pire, oui. 1854, on a trouvé de l'or. Alors arrivent tous les aventuriers de tout poil. La Guyane devient un Far West. 1914, on se souvient que les Guyanais sont français. On les envoie au casse-pipe, dans un pays où ils ne connaissent rien. 1945, fin de la guerre, départementalisation de la Guyane qui se met au diapason du reste de la France. Les gouverneurs véreux sont virés. Et là, on a un superbe homme d'affaires qui fait une trombine pas possible et les Guyanais lui montrent le chemin du départ. 1965, création du centre spatial de Kourou, qui en fait le dôme le plus rentable. Et bien sûr, on voit les dessins de Kourou. Les planches suivantes nous évoquent le bagne. Et bien, je vais passer là parce que moi, la visite du bagne, ça m'a pas du tout charmé, ça m'a horrifié. Je me souviens que on faisait dormir ces gens sur des planches qui faisaient à peu près, ou même pas, oui, 35 cm de large. Alors, Gaston nous dit, paradoxe, ce qui a fait la sale réputation de la Guyane devient son principal attrait touristique. Oui, enfin, je veux bien, mais c'est pas mon cas. C'est pas mon avis. Sur la planche suivante, les îles du Salut. Ça, les îles du Salut, par contre, c'est très très beau à voir de loin. Il est très très agréable de s'y promener. C'est vraiment magnifique. Mais faut pas pénétrer les constructions du bagne. C'est tout. Alors, une planche qui nous explique ce que devenaient les bagnards au bout du bout. Quand un bagnard mourait, il avait droit à un sac de toile pour linceul, une grosse caillasse comme pierre tombale et quelques requins comme curé. Voilà quelques planches sur la soi-disant île déserte. Une île déserte, c'est comme à la campagne. Au début, c'est super, nous y voilà. Et puis, on se fait vite suer. Marre de me baigner. Rien à lire, rien à faire. Pas de cinoche. Ça me manque de filles. C'est un truc pour les autistes, les îles désertes. Mais voilà, derrière ce métro nostalgique, voilà deux Guyanais qui arrivent. Fini de parler fort. C'est une île déserte publique ici. Un petit couplet sur les cocotiers. Le cocotier, c'est pire que la mauvaise herbe. Ça prolifère plus vite que les lapins. Là où rien ne pousse, lui, il pousse. Les noix de coco, ça fournit le boire et le manger. À condition de savoir l'accueillir. Et pas attendre qu'elle vous tombe sur la tête. Ce qui arrive souvent et ça fait très mal, ça assomme. Parce que c'est haut un cocotier. Le truc, c'est d'être copain avec un singe. Ensuite, vous avez des planches magnifiques avec des photos sur les carbets. Alors, les carbets, donc, qui sont construits sur un plancher. On construit d'abord le plancher. Aux quatre coins du plancher, on monte des piquets, des gros piquets. En haut de ces piquets, on dispose une toiture. Les toitures sont en général en branches de palmiers. Et puis, entre les piquets, on attache les hamacs. Alors, une chose que je n'ai pas éclaircie sur place, c'est comment on peut dormir en toute sécurité dans un carbet. Comment est-ce que les araignées guyanaises célébrissimes ou les petits serpents mortels ne viennent pas se faire les dents sur le métro endormi? J'ai pas la réponse. Mais tout le monde va passer le week-end dans des carbets. Et si c'était dangereux, ça se saurait. Par contre, la première nuit que j'ai passée dans un carbet, là, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y avait ce qu'on appelle des cochons bois. C'est des petits sangliers qui jouaient à s'attraper tout autour du carbet. Tagada, tagada. Et ça cavalait toute la nuit. Il faisait un boucan d'enfer. Et en haut des cocotiers, il y avait des singes hurleurs qui comptaient les points. Et alors, pour hurler, ça hurlait, je vous dis pas. Et j'ai pas fermé l'œil, et le lendemain j'étais embouillie. Et tout le monde rigolait. J'oublierai jamais. Chasse, pêche et tradition. Alors, on voit un dessin d'un superbe crevettier qui va partir pour un mois de pêche. Alors, c'est un bateau usine. Hein. Si vous saviez ce qu'il ramène, ça alors c'est extraordinaire. Des crevettes, je dirais presque. Oui, longue comme la main. délicieuse. Ils apportent ça, c'est tout cuisiné, c'est même congelé, c'est formidable. Alors là-bas, tout le monde se balade avec des fusils. La chasse est ouverte toute l'année, sans permis. Oui, je dis chasse, pêche et tradition, il ne faut pas le dire trop fort, parce que la Guyane est un beau pays et un pays heureux. Il ne faut pas tout mélanger. Une double page sur les noirs marrons, qu'on appelle les nègres marrons, toujours. Alors, qu'ils soient Bushinengue, Boni, Djula, Saramaka, les noirs marrons sont tous d'origine africaine. Ils vivent surtout en forêt ou au bord du fleuve. Et je crois que je vous ai déjà parlé de leurs travaux d'ébénisterie extraordinaires, avec des bois magnifiques. Il y a le bois d'Amourette, c'est celui dont je me souviens plus. Je crois qu'il y a de l'ébène aussi. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais c'est des bois rouges magnifiques. Fiers et sauvages, ils parlent le taki-taki. Ils ont conservé les mœurs de leur tribu d'origine. Ils sont sympas comme des Africains, mais faut pas trop les chatouiller quand même. Bon, j'ai pas entendu dire qu'ils aient manifesté quelque agressivité. Le dessin qui est à côté de cette tirade est un peu inquiétant. Ben moi, tous les Saramaka avec qui j'ai parlé, c'était des gens tout à fait pacifiques. Alors, l'abati avec deux T. Comment planter quelque chose en pleine forêt? Facile. On fout le feu. À peine c'est éteint, on sème. Ah oui, d'abord, faut avoir un peu fait le ménage. Hein. On commence par tailler les petits arbres et puis les gros, et après on fout le feu. On sème, c'est la technique de l'abati. Vieille technique qui a fait ses preuves dans le monde entier. Bon, eh bien, je crois que les animaux qu'on aborde maintenant... Oh, je vais peut-être vous faire les animaux quand même. Si, parce que les animaux, c'est un des trésors de la Guyane. Mais moi, j'ai vu quelque chose qui m'a fait énormément de peine. J'ai vu un jaguar dans une grande cage. Et une fois, je vous avais lu à la textuelle, je vous avais lu la panthère de Rainer Maria Rilke. Et le jaguar que j'ai vu en cage ressemblait exactement à la panthère de Rilke. C'était un vrai chagrin. Il était devenu énorme, il pouvait presque plus bouger tellement il était gros, alors que les jaguars, c'est des bêtes superbes. Alors sur cette double planche, eh ben, il y a un touriste, enfin un métro, qui est en train de se faire griller une bestiole sur son petit feu. C'est la nuit. Enfin, c'est toujours la nuit dans la forêt, de toute façon, ou presque. Et on voit derrière, sur une grosse branche, on voit un superbe jaguar qui a l'air tout à fait pacifique. Il faut dire qu'il a déjeuné une heure avant. On voit des agoutis, on voit des singes, on voit des fourmiliers, on voit des caïmans, on voit des tapirs. On voit plein d'aras. Et l'image nous dit, les animaux sont partout, mais on ne les voit pas. Par contre, eux, ils vous voient. C'est pour ça qu'il faut faire un feu dans la forêt. Hein. Mais quelles sont les bestioles les plus nocives pour l'homme ? Eh ben, c'est juste le moustique et le pou d'agouti. Le pou d'agouti, ça ne viendra pas se fiche dans votre tignasse, non. Non, mais ça pique. Ça pique et c'est pas très amusant. Mais avec les répulsifs, on s'en sort. Voilà, la dangerosité des animaux n'est que pure fantasmagorie, c'est tout à fait vrai. Si on les respecte, ils vous respectent. Ils ont beaucoup plus peur que vous. Ben, en forêt, on marche en tapant le sol avec un bâton devant soi, c'est tout bête. Et ils sont les premiers à se sauver. Voilà. Il y a encore quelques pages, quelques planches sur la forêt. Il y a une photo. Au milieu de tous ces dessins, il y a une photo. Et ça, c'est vrai, c'est un pendant indicateur que j'ai vu. Alors, je vous le lis. Mayenne, 7060 km. Luçon, 6931 km. Angers, 7024 km. Narbonne, 7021 km. Orléans, 7216 km. Mâcon, 7348 km. Bayonne, 6770 km. Ils n'ont même pas mis Toulouse. Si on n'a pas la trouille de ce qu'on ne connaît pas, si on aime avoir chaud, si on aime avoir peur, si on aime les voyages mais qu'on n'aime pas le tourisme, si on aime voyager crado, manger des racines, dormir dans la flotte, se promener avec des armes, si on aime être loin de chez soi, si on aime se perdre en forêt, enfin ça ne m'est pas arrivé, je le souhaite à personne, ça doit vraiment être hyper angoissant. Si on rêve de trouver de l'or, si on aime les gens, les animaux, la nature, si on est prêt à se laisser ensorceler par une nymphette toute bronzée, alors oui, on est bien à sa place en Guyane. Voilà, il y a quelques autres pages, quelques autres planches sur la zone interdite, parce qu'il y a des zones interdites qui sont réservées aux Amérindiens pour pas leur coller tout de suite nos tares. Voilà. Et ça, je ne savais pas que c'était véritablement interdit comme zone, et il faut, pour aller les visiter, il faut des tas de papiers, et comme les papiers, c'est pas très facile à obtenir en Guyane, ça les protège. Impossible d'entrer sans permis préfectoral. Voilà. Bon, eh bien, on va se quitter. Mais non, pas tout de suite. Je crois que vous n'avez pas eu droit à l'histoire du carbet ensorcelé. Eh bien, ça vaut le coup de revenir un peu en arrière. Alors, le carbet ensorcelé, c'est un carbet, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comment c'est fait, avec plein de piquets, et puis un toit en palme. Mais, comme il y a malgré tout quelques touristes en Guyane, on leur a fait un carbet à touristes. Alors, il a une forme extraordinaire, on dirait un gigantesque parapluie de toutes les couleurs. Je dis parapluie parce que un parapluie, ça a des baleines. Je ne sais pas qu'il y a des baleines en Guyane, hein. Non, il n'y a pas des poissons si gros que ça. Mais bon, les baleines du parapluie carbet, ça peut servir à toutes sortes d'usages. Alors, imaginez donc, sur un site bien touristique, bien ratissé, avec des fleurs bien entretenues à des endroits choisis, une belle pelouse et tout, un coin resto et tout, pas McDo mais presque, bon. Dans un coin bien touristique donc, pas très loin de Cayenne, on a donc implanté un super carbet en forme de parapluie gigantesque. Et une fois que les touristes, on les a bien amusés, et puis on s'est aussi bien amusés avec eux, hein, faut dire les choses comme elles sont. Bon. Une fois qu'on les a bien fatigués à se balader, et puis qu'on leur a fait des spectacles de danse et tout, bon. Le soir, des fois, ils sont fatigués. Alors, ils vont aller se coucher. Bon. Ils vont dormir dans un carbet pour pouvoir raconter ça aux copains en rentrant. Voilà. Alors, chacun choisit son hamac, lesquels hamacs sont pendus, justement, après les baleines du carbet. Vous voyez, les baleines du parapluie carbé. Est-ce que vous visualisez un peu, vous imaginez? Bon. Imaginez donc un gigantesque parapluie et aux baleines sont suspendues des hamacs. Bon. Alors, une fois qu'il fait nuit, et il fait nuit rapidement en Guyane, il fait nuit à 6 heures du soir, bon, après le dîner et puis quelques conversations et rigolades, bon, vers les 11 heures, tout le monde va dormir, ou soi-disant dormir. Et une fois que le silence s'est établi, il se passe quelquefois des choses étranges. En particulier parce que les touristes, quand ils sont en état touristique, donc quand ils sont loin de chez eux, ils s'amusent à faire des choses qu'ils ne feraient pas chez eux, n'est-ce pas? Bon. Alors, une fois que l'obscurité est complète, il n'y a plus aucune lumière d'allumée, le silence s'est imposé, et bien voilà ce qui peut se passer. Ce qui s'est passé et qu'on m'a raconté, et j'en pouvais plus de rire. Alors, il y en a deux touristes qui avaient fait connaissance vraisemblablement sur place et qui se sont dit que la nuit, comme disent les Indiens, c'est fait pour aimer ou pour dormir. Alors avant de dormir, ils se sont dit qu'ils pouvaient faire autre chose aussi. Alors, je ne sais pas si vous visualisez bien le parapluie et les hamacs. Au centre du parapluie, il y a le poteau central qui maintient le tout. Et puis, il y a d'autres piquets à l'extrémité des baleines, bien sûr, qui supportent l'autre bout des hamacs. Bon. Alors, une fois que tout le monde est dans son hamac, si on ne bouge pas, ça va. Mais si, comme les deux galopins qui... se sont mis à bouger un peu et même beaucoup, qu'est-ce que ça donne? Étant donné que tous les hamacs sont reliés par le piquet central, vous imaginez ce que ça donne? Tout le monde a gigoté ensemble, quoi. Enfin, chacun dans son hamac, pour une personne, quoi. Mais dans un hamac, il y en avait deux. Alors, personne n'a rien dit, à part les intéressés, bien sûr. Tout le monde retenait son souffle et son rire. Et ils croyaient, ils étaient persuadés que tout le monde roupillait. C'est vrai qu'ils avaient été très fatigués dans la journée, mais bon. Et quand ils ont arrêté, la quinzaine de hamacs qu'il y avait autour d'eux se sont mis à gigoter de rire. Énorme éclat de rire. Et le lendemain matin, le rigolo, c'est que tout le monde se regardait en se demandant si celui ou celle qu'ils avaient à côté d'eux, au hamac suivant, faisait partie des délictueux. Voilà, l'histoire du hamac ensorcelé. Bon, maintenant, fini de rire. On va repasser à contre-histoire. Vous allez avoir votre dose de chagrin hebdomadaire. Voilà. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver un tas de films spécialisés sur la Guyane. Et il y en a qui sont vraiment très très importants. Alors sur YouTube, il y a un « C'est pas sorcier » sur les Amérindiens de Guyane qui est très bien fait. Très intéressant. Il y en a d'autres, toujours sur YouTube, de Serge Billet, sur les accointances entre Africains et Bushinengués. Et puis, toujours sur YouTube, il y a un documentaire sur les cultures de l'Ouest guyanais. Alors, l'ONAG, Organisation des Nations Autochtones de Guyane, a tenu, il n'y a pas très longtemps, son congrès au Conseil Général. Les cas de suicide chez les jeunes de la communauté a été évoqué. Rencontre avec Alexandre Sommer-Chetchele, délégué de l'organisation. Georges-Paul Langevin avait annoncé une mission d'inspection chargée de faire le bilan des actions de lutte et de prévention du suicide chez les Amérindiens en Guyane. Qu'en pense l'ONAG, donc Organisation des Nations Autochtones de Guyane? Alors l'ONAG répond: selon nous, cette mission, annoncée par la ministre des Outre-mer, est une perte de temps, même si nous saluons l'initiative. On connaît déjà les causes du phénomène. Les communautés amérindiennes, notamment celles de l'intérieur, font face à un manque cruel d'infrastructures dans les communes. Les jeunes, qui sont les plus touchés dans les cas de suicide, sont par conséquent forcés de se rendre sur le littoral pour poursuivre leur scolarité. Ils sont alors séparés de leur famille, coupés de leurs traditions, de leur langue maternelle. Ils se retrouvent à cheval entre deux mondes, entre leur mode de vie original et la société de consommation qui les attire, comme tous les jeunes. Sur le littoral, ils sont discriminés. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont perdus. L'enclavement serait donc la principale source de cette vague de suicides. Le phénomène du suicide chez les Amérindiens n'est pas nouveau. Il remonte à la départementalisation et à la perte de repères qui l'a accompagné. Mais il est vrai que le problème d'enclavement renforce la donne. On veut garder les Amérindiens dans un petit musée. Il faut passer au développement, tout en conservant les traditions. Le développement, comme fuite en avant, n'est pas non plus souhaitable. Alors, qu'est-ce qu'on propose au sein de l'ONAG? On propose un projet de construire un centre de l'amitié à Kourou, un refuge où les jeunes Amérindiens qui ont quitté leur village pourraient se regrouper. Nous avons déjà le terrain et sommes à la recherche de partenaires. Eh bien, nous souhaiterons que les partenaires se manifestent et qu'ils soient généreux, parce que la vie des Amérindiens est très difficile, très tragique et pas du tout poétique. Voilà, ben excusez-moi, j'ai pas pu faire autrement, vous avez eu votre petite dose de chagrin promise. Alors, on reprendra ce voyage en Guyane, enfin, ce petit tour d'actualité sur la Guyane. Il y a plein de documents qui viennent de m'arriver. Je vous les proposerai prochainement. Je vous remercie de votre écoute et de votre indulgence. Et puis, je rends l'antenne et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci à tous. À très bientôt.